Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis le conseiller général du Portugal ici à Bordeaux, Mário Gomes. Et je voudrais commencer en remerciant la librairie Mola, surtout à Mathilde Mola et à mon bon ami et collègue Denise Mola, qui prend aussi des fonctions consulaires ici à Bordeaux, pour leur contribution au succès des 4e journée du livre et de la culture portugaise à Bordeaux. C'est pour moi, en tant que représentant du Portugal, un motif d'énorme fierté voir les vitrines de la librairie Mola, institution culturelle majeure de la ville de Bordeaux, célébrer la culture portugaise et rendre hommage à l'histoire et aux figures historiques du Portugal, notamment en cette année 2024, quand on commémore les 50 ans de la Révolution des œillets du 25 avril 1974. Et ce moment d'évocation des valeurs d'avril 1974, de la liberté, démocratie, état de droit, humanisme et solidarité, sert aussi pour célébrer la mémoire d'une figure de notre histoire commune qui a lui aussi incarné ses valeurs humanistes et solidaires. C'est pour cette raison que je salue très particulièrement José-Alain Fralon, qui nous présente aujourd'hui la réédition de son livre « Aristides de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux », œuvre incontournable qui a contribué de façon décisive à la connaissance et reconnaissance des actions historiques d'Aristides en 1940. Aujourd'hui, les autorités de notre région, les mairies, et notamment la mairie de Bordeaux, mais aussi d'autres communes de la région, et bien sûr les mairies de Bayonne et Hendaye, ou les préfets de la région, invoquent eux aussi la figure d'Aristides comme faisant partie du patrimoine de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine, voire de la France. Aristides qui fait partie des Justes de France et que, en cette qualité, était même honoré au Panthéon national français, même avant son entrée solennelle au Panthéon portugais en 2021, qu'on a aussi signalé ici à Bordeaux avec la participation d'énormément d'institutions bordelaises. Aristides est le responsable pour la plus grande opération de sauvetage en eau individuelle de la Deuxième Guerre mondiale. Il était, d'une certaine façon, un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'intervention pour des raisons humanitaires. Et avec son acte délibérant de désobéissance, il a dû sauver quelques 30 000 personnes, beaucoup d'entre elles des Juifs. Il est sorti le plus bel exemple d'altruisme que je connais. Un homme que, de façon consciente, a mis toute sa carrière et sa vie familiale en risque. Lui qui avait 13 enfants. Et qui savait très clairement que la désobéissance à Salazar lui serait sévèrement amputée et qu'il risquait de tout perdre. Mais sa conscience l'a obligé à faire ce qu'il considérait correct et sauver tant de personnes que possible. Je vous remercie donc de votre contribution à la reconnaissance de ces actions d'Aristides, pas seulement parce qu'il était portugais et qu'il servait l'État portugais, mais surtout parce que son exemple d'humanisme, altruisme et solidarité sont nécessaires, aujourd'hui comme en 1940, pour nous transmettre un peu d'espoir face aux horreurs qui continuent à tourmenter notre monde. Alors une fois en plus, merci beaucoup José-Alain Fralon. Merci à vous tous de votre présence et merci Librairie Mola de nous associer à ces événements. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le consul, de ces quelques mots de présentation de votre lointain prédécesseur. Pas si lointain d'ailleurs, l'affaire remonte à trois générations, ce qui n'est pas beaucoup. Bonsoir, José-Alain Fralon.
Bonsoir.
1998, je me souviens, vous aviez publié ce livre sous une autre couverture. Alors en fait, le livre que nous avons entre les mains, c'est le livre que vous avez publié en 1998. La cause d'Aristides de Sousa Mendes a depuis un petit peu progressé. En 1998, la reconnaissance du courageux consul portugais à Bordeaux était déjà entamée depuis au moins 10 ans. Notamment en 1988, le Parlement du Portugal avait officiellement reconnu Sousa Mendes Fernandez, son geste, et l'avait officiellement réhabilité. Donc 10 ans plus tard, vous sortiez donc ce livre. Depuis, la réhabilitation est allée bon train, puisque, comme l'a mentionné le consul du Portugal à l'instant, donc en 2021, une plaque a été apposée sous la coupole du Panthéon national de Lisbonne. Donc c'est une forme de reconnaissance supplémentaire. À l'étranger, notamment en France, on a continué donc à saluer la mémoire du consul, notamment à la ville de Bayonne, qui est très importante dans son histoire, qui lui a consacré une rue. La ville de Paris également a inauguré une promenade Aristide de Sousa Mendes en 2022, je crois. Et puis également, il y a une place à Jérusalem qui porte son nom, Jérusalem où dès 1961, des arbres avaient été plantés en sa mémoire avant qu'en 1966, il ne soit déclaré juste parmi les nations. Donc c'était en 1966. Voilà. En tout cas, cette réhabilitation a été particulièrement longue. Alors, on va reparler un peu du parcours extraordinaire d'Aristide de Sousa Mendes. Juste un mot donc vous concernant, José Alain Fralon. Donc, avant de vous intéresser à cette histoire, et après vous êtes intéressé à cette histoire, vous avez fait une très belle carrière de journaliste, qui vous a mené notamment à Bruxelles pour Le Monde, à Moscou. Vous avez travaillé pour Le Point, vous avez travaillé pour l'Express, pour Le Matin, donc nombreux journaux français et francophones. Vous avez beaucoup publié aussi, donc sous votre nom, des ouvrages extrêmement variés, tout un ensemble de livres autour de la question belge. Vous avez également publié des biographies, notamment une belle biographie d'un de nos bons acteurs de cinéma, Maurice Ronet. Vous êtes un fan de vélo, donc vous avez écrit autour du Tour de France, les secrets du Tour de France. Ça remonte à une dizaine d'années à peu près. Voilà, donc des sujets extrêmement variés, j'en passe. Vous étiez à Bordeaux au moment du procès Papon, donc là on se rapproche du sujet, hein, puisque le procès Papon, c'est l'année qui a précédé la publication de l'histoire de Sousa Mendes. Donc là, il y a vraiment un nœud qui s'est formé. Donc peut-être d'ailleurs, évidemment, le procès Papon que vous avez suivi a-t-il joué un rôle aussi dans le mûrissement de cette histoire et de ce livre que nous avons aujourd'hui entre les mains. Alors peut-être tout de suite, José Alain Fralon, nous rappeler dans quelles circonstances vous êtes intéressé, vous n'êtes ni portugais ni un historien de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous vous êtes intéressé à cette histoire, vous avez rencontré la famille de Sousa, et alors comment s'est passé un petit peu votre approche de cette histoire-là?
Pour être franc, je suis assez ému parce que quand je suis arrivé tout à l'heure à Bordeaux, je me disais, tiens, il y a plus de 20 ans, le procès Papon, je commence à connaître Sousa Mendes. Et je me dis, il y a 85 ans qui sauve tous ces gens. Et je me dis que ce fil ténu de la mémoire, comme ça, de Sousa Mendes, a failli se rompre. C'est-à-dire qu'on en a parlé, après on n'en a plus parlé, après on en a reparlé. Il a toujours été, ce fil a resté tendu. Et là, je dois remercier Denis Mola et les éditions Bouquin aussi d'avoir publié encore maintenant pour repartir. Je dirais malheureusement qu'on me dit, avec ce qui se passe à Gaza, avec le redescendre de l'antisémitisme, on me dit ça tombe bien. J'aimerais mieux que ça tombe mal. Mais bon, et voilà. Et donc, c'est une petite histoire. Parce que moi, j'ai tellement travaillé sur Sousa Mendes, je me sens tellement lié à cette famille. Et que, pour être franc, c'est que quand je suis parti pour le procès Papon, Laurent Grélezamer, qui était rédacteur en chef du Monde, dit « Tiens, j'ai reçu une lettre, j'ai pas très bien compris. Lis-la quand tu seras à Bordeaux. » Je la laisse dans mon cartable. Et au bout d'un mois, j'ouvre cette lettre. Et c'était le père Rivière qui me disait « Voilà, j'aimerais vous voir parce que je veux vous parler de Sousa Mendes. » Et là, j'ai vu cette lettre, j'ai vu le père Rivière, et qui a été quand même un artisan incroyable de la mémoire, parce qu'il lâchait pas le morceau. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont connu ici. C'était vraiment, en plus, ce qui était extraordinaire, c'était le frère de Jean-Marie Rivière. Jean-Marie Rivière était le roi des soirées parisiennes. L'Alcazar, c'était lui. Il avait des costumes blancs, etc. Et je vois arriver le père Rivière, pieds nus, à sa bure de franciscain, et qui lâchait pas l'affaire, comme on dit. Après, Emmanuel Diaz, il y en a d'autres. Et donc, c'est avec le procès Papon que j'ai rencontré Sousa Mendes. Il y aura peut-être des questions après, parce que c'est deux destins assez incroyables, Papon et Sousa Mendes. C'est des... ils avaient le même... C'est des condamnés, pas pour l'accusé à crime de bureau. Souza Mendes, lui, c'est sauvetage de bureau. Pourquoi l'un choisit ça, l'autre non? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Souza Mendes. Je suis allé au Portugal, j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré les témoins. J'ai beaucoup travaillé quand même sur ce livre. Et c'est un mystère, pourquoi? On en parlera sûrement des questions, pourquoi il a fait ça? Pourquoi Papon? Pourquoi Souza Mendes? Il n'y a pas... Parce qu'au départ, quand même, il faut bien comprendre, Souza Mendes, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup étudié sur son enfance, sur sa jeunesse, C'était quelqu'un, comme on dit, j'aime pas le mot, mais très à droite, quoi. C'était un conservateur, catholique. Il était consul dans une ville d'Amérique du Sud et il met le drapeau monarchiste portugais contre la République. Donc voilà, j'ai même trouvé, je l'écris dans mon livre, dans les lettres, j'ai vu son courrier, à un moment, il dit « ce juif de Salazar ». Donc c'est un personnage complexe, quoi.
Vous dites dans le cœur du livre, vous le rattachez à une tradition malheureusement pas assez nombreuse, c'est celle que vous appelez les diplomates, la confrérie des diplomates héros. Alors bon, donc il y a Aristide de Souza Mendes, donc responsable à lui seul de la délivrance de, on parle de 30 000 visas à peu près, donc décernés à des fuyards, à des apatrides, à des juifs qui donc passaient par Bordeaux en direction de la liberté. Hein. Vous citez d'autres noms. Alors il y en a un qui est très connu, c'est Raoul Wallenberg, qui est donc ce Suédois hein, qui avait travaillé donc à lui aussi à délivrer des documents diplomatiques à des juifs hongrois. Donc c'est sans doute le plus connu, mais il y en a d'autres. Alors j'ai relevé les noms de Hiram Bingham, de Georges Dukwitz, qui était un attaché commercial à l'ambassade d'Allemagne à Copenhague, le consul général de Chine à Vienne, qui s'appelait Feng Shanho, ainsi que le consul de Suisse à Budapest, qui s'appelait Karl Lutz. Voilà. Et comme ça, vous en avez... Il y a toute une série donc, de ces diplomates obscurs, hein, finalement. Aucun n'était réellement... n'avait vraiment le rang d'ambassadeur. C'est plutôt des consuls ou des attachés qui, tout à coup, donc, devant l'avancée des troupes nazies, mais même avant, puisque ces affaires-là commencent, je dirais, dès l'Anschluss, dès 1938, lorsque l'Autriche est envahie par l'Allemagne. Et là, vous avez déjà les premiers départs de citoyens juifs, donc ils savent qu'ils sont dans l'œil du cyclone, enfin dans le viseur. Alors, mais vous dites que vraiment Aristide dans cette confrérie là, c'est vraiment un des plus remarquables, quoi.
Oui, voilà. J'ai pas voulu faire de compas, de faire.
Non, mais vous le rattachez. Voilà. Hein.
C'est lui qui en a fait peut-être le plus. Bon, c'est assez compliqué de savoir exactement combien de visas il a signé ou non. On va pas faire, c'est pas le Tour de France. Hein. C'est pas le premier, le deuxième, celui-là, mais c'est. Ça veut dire que quand même que dans ces molochs administratifs comme ça qui ont contribué quand même à la Shoah, qui ont contribué à tout ça, il y a des grains de sable. On peut faire quelque chose, même si on est un petit consul, parce que le consul du Portugal, il n'est pas ministre. On peut faire quelque chose, on peut toujours arrêter, calmer les choses. Souza Mendes, il en a fait plus que les autres. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Tout d'un coup, je le raconte, quand il a décidé de le faire, il est allé jusqu'au bout. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Comment ça a pu le prendre? Et il a fait jusqu'au dernier qu'il a pu sauver.
Alors on va revenir sur la vie de Souza Mendes, sur ses origines, sur son parcours. Dire quand même tout de suite que il est arrivé à Bordeaux en 1938, c'est-à-dire 2 ans avant la défaite française et donc l'arrivée des troupes allemandes. Alors en fait, il voulait pas spécialement venir à Bordeaux. Hein. Il avait postulé. J'ai lu dans le livre, il avait postulé pour aller en Chine ou au Japon. Hein, il voulait, voilà. Voilà. Puis en fait, il n'a obtenu aucune de ses affectations. Donc finalement, Bordeaux était un peu un choix par défaut, d'une certaine façon, même s'il aura réalisé là, vraiment le moment le plus important de sa carrière.
Il était en Belgique, il était assez content. Il n'a pas eu une carrière extraordinaire avant. Hein. Il dépensait beaucoup d'argent, il devait être très brouillon. Je ne crois pas que c'était un fonctionnaire parfait. Hein. Il aimait énormément la vie. C'est ça qui m'a frappé quand même, et qui me frappe toujours quand je relis son histoire. C'était quelqu'un de gai, c'était quelqu'un d'amusant, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui dépensait beaucoup d'argent, qui en empruntait à son frère, que tout le monde aimait bien. Mais c'est quelqu'un qui aimait la vie. Hein. C'était pas triste, Souza Mendes. Et il est arrivé à Bordeaux, finalement, il s'est installé, quai Louis XVIII. Et dans sa maison, la musique résonnait, la musique des enfants, etc. C'était gai, ça on s'amusait chez Sousa Mendes.
C'est un des éléments les plus frappants dans votre livre, c'est le côté père de famille. Hein. Donc il a eu effectivement avec sa femme, donc Angelina, 13 enfants, oui. Hein, qui sont nés globalement entre 1910 et 1925. Quand il arrive, évidemment, tous les enfants commencent déjà à être grands, mais enfin il y a encore des petits. Donc c'est un immense appartement qui se trouve quai Louis XVIII, qui oui. bruisse, comme vous venez de le dire, de chants, de bruit, d'agitation. Et lui est au milieu de tout ça comme un père de famille très heureux.
Il s'occupe bien de ses enfants. Il a, on en parlera, des aventures sentimentales. Il est et je crois pas que ça soit un grand fonctionnaire, quoi. C'est pas son truc. Hein. Mais on va en parler tout d'un coup. Quelque chose.
C'est pas un grand fonctionnaire, mais c'est un homme profondément humain et très attaché. Donc et à travers sa famille, en fait, on va s'apercevoir qu'il est aussi attaché à la famille humaine en général.
Voilà, c'est ça. Et bon, il est fondamentalement très très croyant. Alors il fait venir des pierres de marbre de Belgique pour faire une immense croix dans la maison du Passal où ils sont à Coimbra. Là. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui il y va, quand il arrive chez lui, tous les gens du village sont là, il s'occupe des enfants, etc. Donc c'est un bon vivant. Quoi.
Alors il est portugais du Nord, hein, c'est un portugais, donc c'est un village qui se trouve donc dans la région région très 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 septentrionale du Portugal, oui. Rurale. Donc vous l'avez dit, c'est un milieu plutôt monarchiste, catholique.
Ah, très catholique, très conservateur
et de très bonne famille. Hein, c'est vraiment, ah oui, il fait plutôt de la partie de l'aristocratie
portugaise hein. Et très famille et il est né pas loin de Salazar. Ça, on parlera de Salazar après. Voilà, c'est les rapports Salazar-Sousa Mendes. C'est assez passionnant parce que c'est deux.
Alors effectivement, c'est le fil rouge du livre, c'est qu'à 4 années d'intervalle naissent donc Aristide de Sousa Mendes et César, qui sont jumeaux. Hein, ils sont deux. Hein, il y a César et Aristide qui vont tous les deux être élevés ensemble et faire tous les deux le choix de la diplomatie. Hein, ils ont tous les deux. Son frère va terminer ambassadeur. Il aurait plusieurs postes d'ambassadeur à l'étranger.
Il a été même ministre des Affaires étrangères.
Et même brièvement pendant une année ministre des Affaires étrangères de Salazar.
Et ce qui est drôle, c'est que Salazar, c'est je connais pas les histoires de gémellité, de jumeaux, mais c'est drôle, c'est César qui est le frère aîné à quelques minutes près, puisqu'il est sorti le premier. Et il a toujours été très sérieux, César. Chaque fois que Sousa Mendes dépensait trop d'argent, il appelait toujours son frère qui venait à la rescousse. Mais ils s'adoraient, les deux.
Alors, ils naissent en 1885, et 4 années plus tard, pas très loin, naît Salazar. Alors, parlez-nous d'un peu de Salazar, parce que c'est un personnage fondamental. Donc, c'est le dictateur du Portugal de 1930 à 1968. Parlez-nous un peu de lui, et de la relation qu'il entretient avec les Sousa Mendes.
D'abord, je voudrais dire une chose, peut-être pour les plus anciens ici le sauront. Ce qui est drôle chez moi, c'est qu'une de mes tantes s'appelait Christine Garnier. Et les anciennes doivent savoir que Christine Garnier est une des rares journalistes françaises internationales à avoir passé 2 mois avec Salazar. Ça s'appelait les vacances avec Salazar.
Ça, vous l'avez appris après ?
Je l'ai appris après. Et ce qui m'amuse, on en parlait de chez moi, Christine Garnier, Salazar, etc. Et quand le premier ministre portugais était venu il a dit « Ah, c'est vous êtes le cousin, de votre tante, c'est Christine Garnier », parce que c'était une des rares journalistes qui avait parlé de Salazar. Bon, Salazar était quelqu'un de très catholique, très sérieux, très conservateur, l'ordre, c'était ça qui comptait pour lui, c'était le désordre, c'est pas possible. Et il a été vraiment, avec Sousa Mendes, il a été très dur, très très dur, parce qu'il y a des gens autour de lui qui étaient quand même, j'en parle tout de suite parce que je trouve que c'est fondamental. Quand en 1945, Salazar fait un discours en disant « Grâce à nous, des Juifs ont été sauvés, le Portugal a fait ça », Sousa Mendes l'entend. Et Sousa Mendes, il est dans la dèche. Et il dit « Mais c'est moi qui l'ai fait ». Et Salazar, rien, n'a jamais, jamais, jamais voulu le recevoir. Tout le monde disait quand même « Il a fait des choses pour le Portugal ». Non, jamais. La seule chose, quand Sousa Mendes est mort, il y a eu un télégramme de Salazar à César avec un seul mot, condoléances. rien. Donc voilà, c'est...
Là, Salazar revient à toutes les 10 pages. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important, puisque fondamentalement, Aristide et César sont des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères portugais, et ils sont donc évidemment des hauts fonctionnaires de l'État portugais. Et par ailleurs, ils connaissent bien Salazar pour des raisons familiales, régionales, provinciales. Oui. Ils le connaissent aussi donc sur le plan fonctionnel. Et puis, vous l'avez dit, César va être même son ministre
des Affaires étrangères. Il a été ministre des Affaires étrangères, et Salazar n'a jamais, jamais, jamais voulu rencontrer. Sousa Mendes venait au palais de Salazar, président de la République, et il attendait des heures. Non, on vous reçoit pas, etc. Il n'a jamais, jamais, jamais reçu. Alors qu'il aurait pu dire quand même, bon, à l'époque, les Américains, etc., dire, bah oui, quand même, le Portugal, bon, ils ont collaboré, bon, pas, ils sont pas rentrés dans la guerre à côté d'Hitler, mais quand même, ils étaient quand même très, très proches du nazisme et du fascisme, Salazar. Et il aurait pu dire, regardez ce qu'on a fait grâce à Sousa Mendes, le remercier quand même d'avoir sauvé la face du Portugal. Il n'a jamais voulu le faire.
Alors on va dire ce que reprochait Salazar à Sousa, mais peut-être un mot sur la carrière de Sousa Mendes, sa carrière diplomatique. Vous avez dit que ce n'était pas un grand diplomate, mais enfin, malgré tout, il a fait son boulot. Expliquez-nous ce qu'il a fait.
J'ai plus la tête, je sais qu'il est parti en Asie, il est parti surtout, il était en Amérique du Sud, et il avait fait, c'est là où il avait mis le drapeau monarchiste, au lieu de mettre le drapeau portugais républicain, le drapeau monarchiste, donc voilà.
Il fait un séjour à Zanzibar aussi.
À Zanzibar. Mais j'ai peu de choses sur le travail de Sousa Mendes, quoi, comme consul.
C'est un consul un peu obscur, c'est ça ?
Oui, je crois. Enfin, autant César était ministre des Affaires étrangères, donc était vraiment beaucoup plus dans le coup, dans le pouvoir. Sousa Mendes, je crois qu'il aimait la musique, il aimait... Bon, je ne crois pas que c'était... Bon, il a dû faire son boulot, mais il n'y a pas eu de plainte non plus. Il y a une ou deux fois où quand même il a eu des petits ennuis en disant, tiens, il n'a pas... je sais pas si les finances du consulat étaient bien menées, parce que d'après moi, il s'en foutait un peu, quoi, franchement.
Alors d'ailleurs, vous parlez beaucoup moins de son travail de consul que de sa famille, que ses affaires familiales.
Ah, voilà.
Parce que, alors là, par contre, il a beaucoup, beaucoup de travail pour entretenir sa famille.
Ah, il faut entretenir la famille. En plus, quand ils viennent dans le Passal, leur maison à Cabanas, ça coûte cher comme ça. Donc ils font des grands repas. Quand il arrive, il donne des bonbons à tous les enfants. Après, il y a des tablés de 20 à 30 personnes, etc.
Donc c'est un peu la maison du bon Dieu chez lui.
C'est la maison du bon Dieu, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de généreux.
Et alors, pendant toute sa vie, va avoir des problèmes d'argent.
Ah, toujours.
Et plus encore, évidemment, à partir de 1945. Enfin, on va y venir. Mais dès l'entre-deux-guerres, enfin, quand il faut entretenir cette très nombreuse famille, c'est quand même, on tire le diable par la queue. Hein, c'est compliqué.
Et on appelle César. Et on appelle César, le grand frère, donc quelques minutes de plus. Et on appelle César, et César vient toujours l'aider.
C'est César qui faisait les fins de mois.
C'est César qui faisait les fins de mois, qui devait lui dire, bon, allez, mais ils s'adoraient, les deux frères étaient vraiment...
Alors, il arrive à Bordeaux en 1938.
Je veux dire quand même une chose de très important, quand même, je trouve, que César était consul ou ambassadeur en Pologne, à l'époque, 38-39. Il avait vu ce que c'était, il avait prévu ce qu'allait se passer. En voyant tous les juifs qui partaient de Pologne, etc., tout ça. Et ça, il avait dit à Sousa Mendes. Et je trouve que ça a compté dans la décision d'Aristide.
Alors, en 1938, donc il arrive à Bordeaux, il prend son poste au consulat. Ça va durer 2 ans, puisque évidemment ça va se terminer de façon à la fois extraordinaire et tragique. Mais avant même l'affaire, la grande affaire de juin 40, déjà il commence à mordre sur la ligne jaune, c'est-à-dire voilà. qu'il commence à se poser des questions sur les circulaires.
Avant qu'il y ait une circulaire officielle, il commence déjà à donner. Il triche un peu avec une famille, la mère et le fils, et il fait semblant que ce soit la mère et le fiancé pour tricher. Il triche, quoi. Triche tranquillement. Il dit, bon, ouais, pourquoi pas, ils veulent partir, qu'ils partent, comme ça. Et il y a une dizaine de cas comme ça où il est limite, comme ça. Et après arrive cette fameuse directive de Salazar, on donne pas de visa aux gens qui n'ont pas de passeport, aux juifs, aux, etc., etc., etc. Là, la JAP, il a la circulaire 12.
C'est la fameuse circulaire 14.
14, hein. Pardon.
C'est la fameuse circulaire 14 qui donc installe donc dans la tradition portugaise, qui est une tradition très accueillante, hein,
oui, oui.
Avec une législation vraiment plutôt débonnaire, on va dire entre guillemets, pour la délivrance de ces titres de séjour et de ces titres de transit. Là, tout à coup, avec la circulaire 14, donc je crois qu'elle date de novembre 1939.
Voilà.
Là, tout à coup, il y a une sorte de rupture.
Là, c'est genre, on donne pas de visa, sauf il faut vraiment que on donne quelques visas. Et c'est à ce moment-là, justement, où des réfugiés arrivent de toute l'Europe, quoi. Parce que vous voyez Bordeaux, vous voyez le Portugal, vous voyez l'Espagne, le Portugal, les États-Unis là-bas, donc il faut partir. Donc ils arrivent de loin, certains de France, mais d'autres de Pologne, voilà, qu'ils ont compté. Et ils arrivent au bout du bout, et c'est à Bordeaux que leur destin se joue, quoi. Et là, il y a donc cette...
Donc on lui a demandé José Linfralon de ne pas délivrer de visa donc aux étrangers de nationalité indéfinie, non plus aux étrangers qui n'ont pas de raison valable de demander un voyage au Portugal, et puis surtout aux juifs expulsés de leur pays.
Voilà.
Donc, toutes ces catégories de gens, donc il doit pas donner de visa, et ça le consterne.
Il en donne un peu comme ça, et tout d'un coup il rencontre. Alors là aussi c'est une rencontre assez extraordinaire. Il rencontre devant la synagogue de Bordeaux le rabbin Kruger. Le rabbin Kruger arrive d'Anvers avec sa famille, ils veulent partir. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages totalement différents, le rabbin Kruger et le consul du Portugal? Ils se rencontrent, ils parlent. Aristide, ils veulent des visas, bien sûr. Leur premier visa a été refusé. Aristide de Soumanès non seulement leur dit, on va se débrouiller pour le visa, mais venez à la maison. Et le rabbin Kruger et ses 4 ou 5 enfants habitent au quai Louis XVIII. Et Pedro Nuno, l'un des fils un des rares qui était resté, me raconte que les fils de rabbin Kruger, quand il voyait un crucifix, le mettaient là, contre le mur, comme ça. Et Aristide dit à rabbin Kruger, vous en faites pas, les visas, je vous les donne, on se débrouillera. Et là, Kruger lui dit, non, c'est pas moi seulement qu'il faut sauver, il faut sauver tous ces gens. Et là, alors là, c'est quand même... Pedro Nuno m'a raconté, c'était un des rares, tous les autres enfants étaient partis, hein. Il y avait Pedro Nuno qui était resté, et son père est rentré dans sa chambre, s'est couché. Et pendant 3 jours, en buvant un peu d'eau, se levant un petit peu, transpirant, lisant les évangiles, enfin bon, pendant 3 jours, un homme tourmenté, qui se demande ce qu'il va faire. On ne sait pas, on n'est pas dans sa peau, mais ouais, on sent qu'il souffre. Et le matin du 3e jour, il se lève, il se lave, il se coiffe, il s'habille, et il sort et dit, je donne des visas à tout le monde. Quel qu'il soit, avec un détail. Alors là, je sais pas. C'était quand on a fait un film, il paraît qu'il était plutôt châtain et que quand il est sorti, ses cheveux étaient blancs. Pedro Nuno me l'a pas dit, donc je sais pas. Bon, peu importe, c'est un détail de rien.
Pedro Nuno, il vous a dit, mon père s'est levé comme rasséréné.
Voilà.
Et plein d'une immense énergie.
Voilà.
Et là, donc, il venait de passer 3 jours allongé, enfermé dans sa chambre.
Voilà.
Et là, poum, le matin,
tout d'un coup, une force incroyable. Il dit, on signe, tout le monde. Et là, les fils des rabbins Kruger, les enfants de Souza Mendes qui étaient venus, l'attaché du consulat, tout le monde signe. Parce que on m'a souvent dit, c'est pas possible qu'il ait signé tant de choses. Bah, d'abord, je ne le croyais pas, 20 000, 30 000, les chiffres, non. Et après, attention, à l'époque, les visas, c'était les passeports, c'était par famille. Donc, des fois, il y avait 5-6 enfants, on signait et toute la famille avait les visas. Ensuite, Pedro Nuno me l'a avoué, ils ont tous signé. C'est-à-dire que c'était une entreprise, vous voyez. C'est-à-dire que là, les règles diplomatiques, ils s'en foutaient, quoi. C'est-à-dire que
vous, vous précisez d'ailleurs qu'au départ, on fait les choses bien, on remplit les registres, on appose des tampons, on fait tout dans les règles. Et puis plus les heures passent, plus les jours passent.
Et après, on signe vite des petites choses comme ça. On signe tous. Alors le rabbin Kruger, même son fils, dit, c'est la première fois que je vois mon père sortir sans sa kippa, et il va dans la rue chercher les passeports, il les remonte, etc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, bon, il y a des juifs, il y a des gens qui viennent de partout, et il y a Otto de Habsbourg qui est là, et il signe les visas pour Otto de Habsbourg.
Otto de Habsbourg qui est donc un membre de la famille, royale, impériale.
Oui, c'est Habsbourg. Habsbourg, c'est quand même ça, qui vient, et il signe pour Otto de Habsbourg. Robert Montgomery, le comédien, etc. Il signe jusqu'à plus soif, quoi. C'est-à-dire qu'il travaille près de 16-17 heures par jour, quoi. Et les gens montaient. Il y a beaucoup, après, moi, j'ai rencontré des gens qui se souviennent, qui étaient enfants, et disent, mais on montait comme ça, et on descendait, on avait le visa, et on pouvait partir, quoi.
Oui, il faut d'ailleurs se représenter ce que c'était. Donc, cours Louis XVIII, donc il pouvait en 40, quand l'exode donc s'est produit, il voyait arriver à travers le pont de pierre toutes ces colonnes de réfugiés. Et puis alors donc ce qui se répandait un peu partout, la place des Quinconces était noire de monde. Il y avait des voitures partout. Et donc dans l'escalier du consulat, dans le hall, dans l'escalier et jusque dans ces appartements consulaires, il y avait du monde partout. Hein.
Ah ben c'était alors tout le monde s'en occupait. Voilà, c'était vraiment un travail de famille et ils ont signé.
Alors sa femme faisait table ouverte à la cuisine, je crois.
Alors sa femme s'occupait bien sûr de la cuisine. Il y a beaucoup des gens qui restaient. Il y avait un enfant tout seul, donc ils s'en sont occupés. Il y avait vraiment, c'était assez sidérant. Enfin, je me l'imagine, mais j'y étais pas. Mais j'ai tellement fait parler les uns et les autres qu'on voit que c'était la maison du bon Dieu, si j'ose dire, que tous ces gens qui arrivaient comme ça, qui arrivaient de Pologne, et d'un coup, on leur dit, il faut aller là, et qui montaient, et quand ils montaient ces escaliers, qu'est Louis XVIII, et ils avaient le visa, et pof, ils repartaient, quoi, il en a sauvé. Alors bon, les chiffres, peu importe, mais c'est énorme, quoi.
Alors, vous avez mentionné le fait que bon, il savait qu'il était dans une forme d'illégalité, il le savait. Et puis par ailleurs, il avait un personnel consulaire. Donc, il y avait le personnel consulaire de Bordeaux, et puis il y avait le personnel consulaire de Bayonne, Hendaye. Après, puis, ensuite, il est parti à la frontière.
Voilà, parce qu'après, alors, Salazar a commencé à dire, il y a eu des bruits qui sont venus en disant, mais attention, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, il rêvait. Salazar, c'est pas tellement le fait qu'il sauve des juifs, etc. Salazar, c'était il désobéit. Désobéissance, quoi. C'est ça qu'il ne comprenait pas, quoi. Alors donc, il envoie des gens qui viennent voir, qui lui disent, etc. Et non seulement, au lieu de se calmer, il sait qu'à Bayonne, il y a aussi la même chose, des gens qui sont là, il prend la voiture, il va à Bayonne, il engueule un peu le consul qui, lui, veut pas signer, et comme il y a une petite escalier, il prend une chaise avec quelqu'un et une table, il descend, et dans la rue, pratiquement, il se met et il signe, et il signe, et il signe, et il signe. C'est sidérant. Et après, le Hendaye, c'est encore plus extraordinaire. Salazar, maintenant, a dit non, il faut l'arrêter, il faut arrêter ce qu'il fait, etc. Il va à un poste frontière, j'ai oublié où. Et là, on lui dit non, maintenant, on a reçu des ordres, on ne peut plus, vos visas ne sont pas bons. Il y a à peu près 200 personnes qui le suivent, lui en voiture, qui sont là aussi. Et il se rappelle qu'il y a un petit poste frontière, pas loin, où il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien vraiment. Il part avec sa voiture, suivi par 200 ou 300 personnes. Ils arrivent, et lui, il a du culot quand même. Et il dit, voilà, je suis le consul du Portugal, voilà.
Ces gens sont avec moi.
Ces gens sont avec moi, laissez-les passer. Alors le douanier espagnol, il laisse passer. Et il passe. Et lui revient à Bordeaux. Et eux partent et sont sauvés, vraiment in extremis, quoi.
Alors, vous dites à plusieurs reprises que c'est comme une course contre la montre. C'est-à-dire que comme il sait qu'il est dans l'illégalité, et il sait que le ministère des Affaires étrangères portugais commence à se méfier et à envoyer des émissaires pour savoir ce qui se passe et peut-être l'empêcher de continuer à délivrer ses visas. Donc, lui, il le sait. Et donc il sait qu'il n'a que quelques jours pour agir. C'est bien ça.
Il le sait. J'ai essayé toujours de me mettre à sa place. Quand on écrit sur quelqu'un, on se dit, je sais même pas s'il a un problème d'illégalité. Je crois qu'il se pose pas ça. Il faut le faire. Il a décidé qu'il fallait les sauver, les sauver, les sauver, les sauver, et que ce soit légal, pas légal, etc. Il s'en fout. Enfin, il faut le faire.
Il considère que la circulaire 14 est une circulaire scélérate.
Voilà, il dit cette circulaire 14, j'en veux pas, etc. Et en plus, moi, je suis croyant, il faut sauver les autres. Voilà, on peut pas les laisser mourir comme ça. Et il rentre. Et quand il rentre à Bordeaux, à Cabanas, il croit que on va pas le. Ça va, quoi. Il pense pas ça. Et très vite, il veut voir Saint-Lazare, il veut, etc. Et là, commence, c'est terrible ce qu'il a vécu, quoi. Plus d'argent, plus de.
Oui, alors on va peut-être expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que donc pendant plusieurs jours, donc il délivre ses visas, donc à des milliers de réfugiés, donc qui parviennent à Lisbonne, parce que un mot quand même, Lisbonne, c'est la porte de la liberté. Lisbonne, c'est la ville d'où partent les transatlantiques pour l'Amérique du Sud ou pour l'Amérique du Nord, et c'est un endroit évidemment très convoité. Hein.
Il y a une immense tradition d'hospitalité aussi à Lisbonne. C'est Portugal, ça vraiment, ça c'est important. Donc, et beaucoup de gens veulent aller à Lisbonne et partir après ou rester. Enfin, bon,
la difficulté étant qu'il faut quand même traverser l'Espagne franquiste,
hein. Oui, mais là, il a laissé passer Franco, hein, les juifs. Ça, moi, j'ai quand même trouvé. Bon, je suis pas spécialiste, pas historien, hein, j'ai quand même trouvé des lettres de personnes qui demandaient à ce que Franco soit juste parmi les nations. C'est fou quand même. Hein. Mais oui, Franco a été, bon, je dis pas, hein, mais par rapport à ce qui se passait en France, ce qui se passait ailleurs, Franco avait dit, une phrase horrible, avait dit, mais beaucoup de juifs étaient pas Isabelle la catholique, etc. Beaucoup de juifs étaient partis, hein, depuis longtemps en Espagne. Mais enfin bon, donc ils n'ont pas eu de problème. Tous ceux qui sont passés de Portugal, qui sont passés par l'Espagne pour aller à Lisbonne, n'ont pas eu de problème en Espagne.
Ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que Sousa Mendes sauve des juifs, beaucoup. Enfin, sur les 30 000, il y a vraiment essentiellement des juifs. Mais pour autant, le régime, ni le régime de Salazar, ni le régime de Franco ne sont antisémites comme le régime allemand, par exemple.
Ça n'a rien à voir. Ils sont sans doute antisémites comme beaucoup de catholiques l'étaient quand même, ou le sont. Ça, faut pas le nier.
Mais il n'y a pas de politique antisémite.
Il n'y a pas de politique antisémite. C'est pour ça qu'après, dès que la guerre a été terminée en 1945, bon, ben, tout de suite, après, il y a le péril russe, etc. Donc, ils ont été réintégrés.
Mais par contre, ce qui est important pour Salazar, et c'est sans doute une des raisons de la vindicte qu'il va exercer contre Sousa, c'est que lui, il veut que son pays soit neutre pendant ce conflit, mais en même temps, il veut garder des bonnes relations avec Hitler.
C'est ça.
Et donc le fait que Sousa Mendes donc délivre tous ses passeports à des juifs chassés que Hitler voulait probablement capturer, il pense que Salazar pense que ça va compromettre ses relations avec Hitler, voilà, et c'est ça qui le rend aussi.
Je crois que j'ai eu je suis pas un spécialiste sur les Portugal, mais je crois que Salazar, il pensait qu'Hitler allait gagner, donc il se dit il faut faire attention parce que voilà, c'est peut-être lui qui va gagner, mais Grâce à Sousa Mendes, notamment, il passe en 1945. Il peut se vanter d'avoir sauvé des Juifs.
Grâce à quelqu'un qu'il ne veut pas recevoir.
Il ne veut pas recevoir. Et Sousa Mendes, je l'ai raconté peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a un discours de Salazar qui dit, voilà, la paix, etc. Et grâce à nous, il y a des Juifs qui ont été sauvés, etc. Et Sousa Mendes est dans la misère et dit, mais c'est quand même moi qui ai signé ces traités.
Alors, Sousa Mendes, après cet exploit et ce comportement magnifique, a quand même enfreint les règlements de son gouvernement. Donc, au mois de juillet, août, il rentre au Portugal, il se réinstalle chez lui avec sa famille. Bon, et puis là, il va aller plaider sa cause à Lisbonne, ville qu'il connaît mal d'ailleurs, hein, mal. Et alors, il va avoir la très mauvaise surprise d'être non seulement ignoré, mais poursuivi et ensuite jugé. Donc parlez-nous un peu de ce procès.
Mais surtout, d'abord, il a été la mesquinerie de Salazar. On lui retire son permis de conduire, on lui retire il était avocat, il était juriste, donc il avait fait une licence en droit, donc il aurait pu être avocat. On lui refuse ça, vraiment, une mesquinerie, il faut le jusqu'au bout, quoi. Et après, il y a un procès. Un procès assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les procès administratifs, c'est toujours très, très... Et...
C'est un procès assez spectaculaire, parce qu'il y a 15 chefs d'accusation contre lui.
Voilà, alors les chefs d'accusation, mais qui sont tous les mêmes, désobéissance, quoi. Il a désobéi, voilà. Bon, il a désobéi.
Alors on liste toutes les
désobéissances. Alors tel visa, il n'avait pas le droit parce qu'il n'y avait peut-être pas toutes les caractéristiques demandées pour un visa. Ici, voilà, donc tout est fait pour l'attaquer sur ça, quoi. C'est parce que Salazar ne supportait pas ce...
Alors ce que vous racontez, c'est que non seulement donc il y a un procès et un jugement, donc il est défendu, il a un avocat de la défense, il y a un procureur, bon, il y a un procès donc légal, hein, qui aboutit à sa dégradation, hein, c'est-à-dire voilà. À une rétrogradation.
Hein. Il est rétrograde.
Et Salazar va en rajouter.
Et Salazar veut que ça soit encore plus. Salazar, il veut le punir d'avoir désobéi. Tu vois, il pouvait. C'est ça qui
trouve que le juge trouve que le jugement ne va pas assez loin.
Ça va pas assez loin. Donc il est dans la misère. Voilà, il est.
Donc on le met à la retraite d'office.
Retraite d'office. Alors
on lui retire son salaire.
Retire son salaire et il raconte que un jour il va déjeuner dans une cantine comme ça pour réfugiés. Et les gens lui disent, mais quand même, monsieur le consul, enfin, venez manger à Oyen. Il dit, non, moi, vous savez, je suis un réfugié comme les autres, hein, parce qu'il n'a rien, quoi.
Et alors, ne rien avoir quand on a une petite famille, ça va, mais quand on a une très nombreuse famille, alors là, c'est vraiment, il est dans des problèmes d'argent terribles.
Terribles. Alors là, les enfants partent, il y en a qui vont faire le déplacement de Normandie, il y en a qui vont... Voilà, ils sont partis, tous, finalement, se sont partis un peu dans... Ils ont essayé de se débrouiller comme ça, voilà. Après, alors, il y a une... Est-ce que ça compte ou non? Je ne sais pas. Il a une aventure en 1940. À ce moment-là, il a un enfant qui s'appelle Marie-Rose avec André Sibial, qui est sa maîtresse à l'époque à Bordeaux. Et alors après, il l'a épousée, ils ont vécu ensemble, mais aussi dans la misère. Alors,
sa femme meurt en 1948 et un an plus tard, il épouse cet André Sibial.
Il épouse André Sibial. Alors est-ce que ça compte? Je sais pas, moi je suis pas psy. Est-ce que ça a compté dans son affaire? Je crois pas. Je crois que c'était. Il aimait les jolies femmes. Je crois que c'est un homme qui aimait la vie et après, mais Marie-Rose, qui après a fait beaucoup de grâce au père Rivière, dont on va peut-être parler. Marie-Rose a fait beaucoup pour la mémoire de son père, quoi, parce qu'elle venait le voir. Et Marie-Rose aussi savait pas du tout que son père avait fait ça, quoi. Et un jour, elle vit en pas loin d'ici. Chez son oncle, et un jour il y a une copine à elle qui dit, mais tu sais, ton père, et ben il a sauvé des gens. Il y a un petit article dans le Reader Digest, donc voilà. Et là, après, avec le bouquin, tout ça, elle a revu le père Rivière, etc. Elle a beaucoup travaillé pour la mémoire de son père.
Alors vous racontez quand même les années 1945-1954, puisque Aristide Sousa Mendes va mourir en 1954, donc ruiné, très malade, donc dans une maison où il n'y a pratiquement plus rien parce qu'il a été obligé de tout vendre.
Il a vendu la maison.
Donc c'est là, il y a une longue déchéance quand même.
Hein. C'est une longue déchéance, il est malade. Et quand il meurt dans un hospice, et il est tellement mal habillé qu'on lui met une bure de franciscain pour qu'on l'enterre, quelque chose de voilà.
Voilà, donc une très triste fin, donc en 1954. Et, voilà. Et donc Salazar envoie un télégramme avec le mot condoléances.
Condoléances à César, c'est tout. Et là, et c'est là le mystère, l'histoire extraordinaire. Il y avait tellement de chance que ça se termine comme ça. Finalement, parce que vous pas oublier non plus que tous ces réfugiés, ils savaient que c'était le consul qui avait signé ça. Oui, ça, ils montaient, etc. Mais bon, et petit à petit, c'est ce que je disais au début, c'est ça qui m'a sidéré, c'est que ce fil très ténu de la mémoire nous amène aujourd'hui. Il y avait énormément de chance, enfin de chance, non de malchance, pour qu'on ne parle pas de Sousa Mendes. Petit consul du Portugal qui a sauvé des gens comme ça, qui sont partis dans le monde entier. Tout. Mais petit à petit, grâce à des pères Rivière, à des gens qui s'occupent du comité sous Amadès, grâce à des tas de gens.
À commencer par ses enfants, quand même.
C'est d'abord ses enfants, bien
sûr. Parce que, bon, il a 13 enfants. Évidemment, les enfants, certains d'entre eux ont été très actifs.
Très actifs.
Notamment, souvent, il y en a qui étaient aux États-Unis.
Il y en a deux. Il y en a un aux États-Unis. Pedro Nuno, qui était là, lui, il était au Congo. Et le premier article, là, c'est au Congo, juste à la mort de Sousa Mendes. Un grand ami de la Belgique vient de mourir. Il parlait un petit peu de ça, déjà. Et après, il y en a un autre qui est aux États-Unis, qui est revenu, qui a écrit un petit livre. Et petit à petit, de fil en aiguille, comme ça, il y a certains réfugiés qui se sont dit, mais quand même, qui c'est qui nous a sauvés, qui ont vu la signature. Il y a Otto de Habsbourg qui a dit, mais quand même, grâce à lui, etc. Et petit à petit, ce jeu de la mémoire, il s'est toujours... Ça s'est jamais cassé, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. À un moment, ça, il y avait plus personne. Et un député Coelho, un député portugais d'origine portugaise américain, et qui a dit mais il faut faire quelque chose. Et petit à petit, tout ça s'est mis.
Alors évidemment, ce qui peut surprendre, c'est le temps qu'a pris cette réhabilitation, puisqu'on a parlé, donc il meurt en 54, en 61, bon, il y a quand même en Israël donc cette plantation d'arbres, donc les Israéliens ont déjà repéré quand même, l'ont repéré, donc, mais dans son propre pays, on est encore sous la dictature, la dictature va tomber à la fin des années 60, la révolution donc des œillets, c'est 74, on peut penser qu'en 74, tout à coup, on va se mettre à parler de Sousa Mendes, en fait, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'au moment de la révolution des œillets, il n'y a pas eu une réhabilitation rapide de Sousa Mendes?
Il y a plusieurs explications. Je dis toujours, je suis que journaliste, je suis pas historien. Je crois que Soares, Cunial, enfin tous les capitaines à la révolution, etc., étaient des gens plus à gauche, socialistes, etc., et que cette personnalité de Sousa Mendes, catholique, etc., c'était pas leur pas dire la tasse de thé, je trouve pas le mot. C'était pas leur monde, quoi. Voilà.
Il avait été très maltraité par Salazar, mais il n'avait jamais fait partie de l'opposition politique.
Ah oui, non, c'est ça. Il était plutôt de droite ou même d'extrême droite. Sousa Mendes, quand il était pas d'extrême droite, mais il était conservateur, monarchiste, très catholique, etc. Donc pour Cunial, pour Soares, pour les capitaines, etc. Bon, c'était pas leur monde. Et petit à petit, grâce à des diplomates portugais qui ont dit voilà, il faut refaire le procès, il faut tout revoir. J'ai oublié le nom parce que les mémoires flanchent, mais qui ont revu tout et qui ont relancé la machine. Et finalement, au Portugal, il a été.
Puisqu'entre la révolution de 74, dont on va fêter les 50 ans d'ailleurs, là, le 25 avril, et puis la reconnaissance par le Parlement portugais de donc la réhabilitation de Sousa Mendes, il se passe presque 15 ans. Hein.
Ah oui, non, c'était très long, mais il y a quand même eu. Alors moi, j'ai vu tous les documents, ils sont allés chercher, etc. Il y a eu une vraie procès en réhabilitation qui a été très, très.
Sérieux.
Très sérieux.
On est allé chercher le dossier de Sousa Mendes au ministère.
On a ouvert le dossier, on a vu les choses.
Il était sous scellé.
Ah oui, parce que Salazar, Jean, avait mis en disant...
Vous dites qu'il avait mis une pierre dessus.
Il a ouvert un coffre, Sousa Mendes, on ferme, je le tue, quoi. Je le tue administrativement. Je le condamne pas à mort, je le condamne pas, mais je veux plus qu'il ait plus aucun papier. Voilà. C'est terrible, hein, cette dureté de Salazar par rapport à Sousa Mendes.
Alors nous sommes à Bordeaux, Bordeaux évidemment où se produisit cette extraordinaire histoire. Et puis donc il y a le procès Papon 97, vous l'avez dit. Mais avant, donc 3 ans avant, donc en 94, le président portugais Mario Soares vient à Bordeaux. Je crois qu'il est déjà président. Vient à Bordeaux et pour donc dévoiler un buste de Sousa Mendes, donc qui se trouve pas très loin d'ici à Mériadec.
Un peu après ça, c'est après le procès.
Je crois que c'est 94, c'est ça.
Je crois, oui.
Voilà.
D'abord, donc Soares vient et après il y a eu une place. Il y a eu maintenant après.
Soares qui est socialiste, mais qui a compris
après tout d'un coup les Portugais ont compris qu'ils ont compris
que c'était un de leurs grands hommes.
Un des grands hommes. Parce qu'il avait fait quoi, par ça. Après, donc partout dans le monde, il y a eu des. Après, la mémoire, c'est. Mais avec toujours, ça revient. Il y a des films qui se font. On découvre des choses. Voilà.
Et donc 94, donc Bordeaux enfin lui rend hommage. Voilà, c'est aussi relativement tardif finalement.
On peut. Ah oui, quand même. Oui,
ah, quand même,
oui,
puisque oui, ça faisait, oui. Ça faisait pas tout à fait un demi-siècle. Bon, enfin, on peut penser que peut-être que Bordeaux aurait pu peut-être s'aviser.
Toute la vie de Sousa Mendès, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu le faire plus tôt, on aurait pu le faire, mais finalement, on le fait quand même.
On le fait quand même, oui.
Mais juste au moment où on croit qu'on ne va plus parler de lui, tout d'un coup, on parle de lui.
Parce qu'il y a les Portugais de Bordeaux, les Portugais du Sud-Ouest.
Voilà, grâce aux des gens comme Manuel Diaz, comme le père Rivière, etc., qui ont travaillé, c'est vraiment...
Vous avez parlé du père Rivière tout à l'heure. Oui, quelques mots sur lui, à nouveau.
Père Rivière, c'est un... qui l'ont connu ici, c'est une personnalité extraordinaire, quoi. Il lâchait pas l'affaire, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ça, il lâchait pas. Hein. Enfin, quand il a su que c'était moi qui vais peut-être m'occuper de ça pour Le Monde, hein, je reviens avec cette lettre.
Et... Vous l'avez rencontré?
Oh, il m'appelait tout le temps. Et il fallait ça. Il me poussait, hein, vraiment.
Ouais, oui, vous, journaliste au Monde, qui voyez en vous un
rôle. Voilà. Et moi, en plus, je trouvais que c'était important parce que bon, on peut en parler quand même. C'est pas simple. Hein. Papon Sousa Mendès. Le contraire, quoi. Un qui dit oui, un qui dit non. C'est sidérant. Donc moi, chaque fois que je suivais le procès Papon, je voyais Papon comme ça, et je travaillais en même temps sur Sousa Mendès. Je dis, mais pourquoi Papon, il l'a fait. Je reviens pas sur le procès Papon, comme on dit dans les bandes dessinées... à son âme, bon, il a été condamné, etc. Mais il s'accrochait comme ça. Non, j'ai pas fait, etc. Alors que pas d'humanité, quoi. Il a fait, il a obéi aux ordres, mais bien. Il aurait pu le faire un peu moins bien, quoi. Ça, le problème de Papon, je refais pas le procès, hein, mais quand même, il a pas mis du zèle, mais quand même, hein, il aurait très bien pu le faire un peu moins bien. Alors que Sousa Mendès l'a pas fait du tout. Il a fait mal. C'est-à-dire il n'a pas du tout respecté les règles administratives. Donc c'est là où c'est pour ça que moi, ça m'a frappé, cette Sousa Mendès.
Salazar aurait rêvé d'avoir Maurice Papon sous ses ordres.
Voilà. Non, mais exactement. Voilà. C'est exactement
et
ça.
Et malheureusement, il avait Sousa Mendès.
Voilà. Si je refaisais le livre, je terminerais par ça. Parce que c'est exactement ça. Voilà.
Donc, alors la réhabilitation, donc maintenant vous dites, elle est pleine et entière. Hein, le Parlement portugais, les grands croix de grands croix du Portugal, le Portugal l'a donc panthéonisé. Hein,
partout. En plus, il y a eu un film sur Antenne 2, il y a eu des films, il y a eu deux films.
Donc aujourd'hui, c'est une figure.
Ah, c'est une vraie personnalité, quoi, connue.
Et pour le Portugal, ça fait partie vraiment. Des pères de la nation, pratiquement.
C'est Sousa Mendès, quoi. C'est un type qui a fait une action. C'est presque héroïque ce qu'il a fait, mais sans les héroïsmes, quoi. C'était la. On dit que Papon, c'était les crimes de bureau. Ben lui, c'est un sauvetage de bureau. C'est de signer, quoi. Mais c'est important de signer.
Sauvetage de bureau.
Voilà.
Donc vous, sur la couverture de ce livre, donc vous l'appelez le Juste de Bordeaux. Donc oui. Il fait partie de la confrérie des Justes. Oui. Voilà, il a ses arbres à Yad Vashem, sa plaque, oui. Ce titre noble et magnifique. Voilà, donc réédition de ce livre, donc édité en 1998 et donc réédité en 2024. Alors évidemment, 2024, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le 50e anniversaire de la révolution des œillets, donc la fin vraiment de la dictature portugaise. Donc c'est une date très symbolique, hein, ce 50e anniversaire. Donc on est heureux de pouvoir donc à nouveau. Lire ce livre qui était épuisé, je crois.
Oui, ça a bien marché.
Voilà, donc aux éditions Bouquin et Mola, c'est une coédition Bouquin-Mola. Hein, voilà. Et donc je recommande évidemment à tout le monde de se plonger dans cette histoire et dans tous ces détails qui est vraiment une grande leçon humaine de générosité, de dévouement et surtout de conscience. Hein.
Voilà, et surtout quand on me demande pour terminer, si je devais qualifier Sousa Mendès, je dirais c'est un homme qui aimait la vie.